Bonsoir, merci de participer à notre conférence téléphonique qui concerne donc l'activité du premier semestre 2026. Je pense que tout le monde a dû recevoir le communiqué qui est paru il y a quelques minutes. Je vais vous dresser un panorama de l'activité à aujourd'hui. Vous avez dû voir au travers du communiqué que l'activité du deuxième trimestre et donc par voie de conséquence du premier semestre s'est avéré bien meilleur qu'anticipé. On va revenir en détail par géographie et par secteur. Mais ce qui est important de noter, c'est que alors que le premier semestre était en demi-teinte, même s'il avait montré des signes de stabilisation de l'activité, voire de reprise dans certains secteurs, le deuxième trimestre s'est avéré beaucoup plus dynamique qu'anticipé, grâce à certains secteurs en particulier qui ont accéléré leur rythme de croissance ce deuxième trimestre. Cela a donc permis à Alten de renouer avec la croissance organique dès ce semestre, alors que nous n'anticipions pas de retour à la croissance organique avant au mieux le second semestre 2026. À la fin du mois de juin 2026, le chiffre d'affaires d'Alten s'est donc établi à 2,109,2 millions d'euros, en progression de 1,2% par rapport à l'an passé. En France, l'activité a progressé de 4,4% et hors de France, elle a reculé de 0,5%. À périmètre échange constant, le change ayant eu un effet extrêmement défavorable ce semestre sur l'activité publiée. Donc, retraité de l'effet de change l'activité et de périmètre, l'activité croît de 1,6%. Elle a cru de 3,3% en France et de 0,8% hors de France. Au second trimestre, en particulier, nous allons y aller tout de suite. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,055,5 millions d'euros, en progression de 3,3% par rapport à l'an passé. Une activité qui a progressé de 7,7% en France et de 2,2% hors de France. À périmètre échange constant, l'activité du groupe a cru de 3,2%. Elle a cru de 6,5% en France et de 1,5% hors de France. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'effet calendaire sur le second trimestre, ni sur le semestre. Notre taux d'activité a progressé. Il était de 91,8% ce semestre, en amélioration par rapport à 2025, puisqu'en 2025, au H1, le taux d'activité était de 91,1%. Les effectifs du groupe ont recommencé à progresser à périmètre constant après s'être stabilisé au premier trimestre. À fin décembre 2025, Alten comptait 50 400 collaborateurs, dont 51 000 ingénieurs. À fin juin 2026, nous sommes 58 700, dont 52 500 ingénieurs. 12 500 ingénieurs sont en France et 40 100 hors de France. Pour information, Alten a cédé une petite activité non rentable, j'y reviendrai ultérieurement, dans le domaine du life science au début du trimestre, du second trimestre, 61 ingénieurs et quelques consultants externes. En net, le M&A a donc contribué à hauteur de 800 personnes à la croissance des effectifs ingénieurs et à périmètre constant, nos effectifs ingénieurs ont cru de 400 personnes, exclusivement au second trimestre. 150 en France et 250 ingénieurs hors de France. Alors, par zone géographique, je vais vous présenter la dynamique d'activité parce qu'il est important de regarder Q1 et Q2 de façon séquentielle pour comprendre ce qui s'est passé sur l'ensemble du semestre. En France, l'activité s'était stabilisée au premier trimestre, grâce à l'aérospatiale déjà, une activité qui a accéléré fortement au second trimestre, puisque vous voyez qu'elle est passée de 0,3% à 6,5%, grâce à l'aérospatiale évidemment, qui est en croissance de plus de 20%, au ferroviaire, qui est en croissance de plus de 21%, à la défense, sécurité et navale, qui est en croissance de plus de 13%. Ça pour la France uniquement, évidemment. Le nucléaire, le grid et les équipements pour l'énergie ont progressé de 3%. L'automobile, malheureusement, continue à régresser. L'automobile qui ne représente plus en France que 8,5% du chiffre d'affaires, mais qui a encore régressé de 4%. Enfin, dans les sciences de la vie, les télécoms, le tertiaire et les autres industries sont toujours en léger recul. Au global donc, porté par l'ASD et le ferroviaire, la croissance organique s'est quand même établie à 6,5% ce second trimestre, ce qui nous permet d'afficher une croissance semestrielle de 3,3%. En zone ibérique, vous voyez que l'activité a cru au global de 7%, avec une légère accélération de la croissance au deuxième trimestre. Toutes les activités sont en croissance, à l'exception des télécoms et de l'auto, comme au premier trimestre, ces deux secteurs représentant 10% du chiffre d'affaires de la zone ibérique. En Italie, l'activité avait ralenti au premier trimestre assez sensiblement. Elle réaccélère légèrement au second trimestre puisqu'elle est de 3,2%, ce qui nous fait une croissance semestrielle de 2,2%. C'est le secteur banque-finance qui représente un peu moins de 15% du chiffre d'affaires en Italie qui est en recul assez sensible, de plus de 15%, alors que tous les autres secteurs d'activité sont en croissance, y compris en Italie le secteur automobile. En Allemagne, une performance qui mérite d'être remarquée et d'être soulignée, l'Allemagne qui a connu plusieurs trimestres de décélération et de recul très marqué de l'activité, 2024-2025, a marqué des premiers signes de stabilisation au dernier trimestre 25, un premier trimestre 26 où nous étions presque à l'équilibre en year-on-year, et un deuxième trimestre 2026 où la croissance organique est à nouveau positive, avec une croissance de 4,5%, qui permet à l'Allemagne d'être en croissance sur l'ensemble du semestre de plus de 1%. L'automobile, qui est un vrai sujet en Allemagne, comme vous le savez tous, représente un peu moins de 30% du chiffre d'affaires aujourd'hui, est en recul year on year de 25%, mais la décroissance séquentielle de l'activité dans l'auto a fortement ralenti puisqu'elle est aujourd'hui comprise entre 5 et 10%. Toujours les équipementiers qui sont en fort recul et une partie de l'activité chez BMW qui est positionnée sur les métiers de l'AUG, qui sont des métiers à faible marge auxquels nous participons de moins en moins. L'aéronautique, en revanche, 25% du chiffre d'affaires a fortement cru pour dépasser 25% de croissance organique, de même que le secteur de la défense et sécurité, qui représente près de 10% du chiffre d'affaires allemand aujourd'hui et qui est en croissance de plus de 30%. Au UK, une activité qui est repartie en croissance organique au deuxième trimestre, ce qui permet de réaliser une croissance organique au premier semestre de 1,5%. Les secteurs de l'auto et de l'aéronautique civile, un petit tiers du chiffre d'affaires, sont toujours malheureusement en recul. Mais le secteur de la défense croît maintenant de plus de 20% et représente plus de 10% du chiffre d'affaires UK, de même que le secteur de l'énergie, qui représente également 10% du chiffre d'affaires UK, qui est en croissance de plus de 50%. Le secteur public, dont nous sommes présents, comme vous le savez, par l'acquisition de la société Methods il y a plusieurs années, le secteur public qui représente 40% du chiffre d'affaires et qui était en recul continu depuis plus de 2 ans est à nouveau en croissance, faible, mais en croissance néanmoins. Au Benelux, d'ailleurs, Benelux et Nordics sont les deux zones géographiques où nous continuons à rencontrer des difficultés. Au Benelux, si l'activité est stable en Belgique, elle continue à reculer de 7,5% aux Pays-Bas en raison du secteur des autres industries et des semi-conducteurs. En Europe de l'Est, le rythme de décroissance a ralenti, puisqu'il n'est plus que de 2,2%. La Pologne, qui représente les trois quarts de la zone, a vu son activité se stabiliser, alors qu'en Roumanie, un quart de l'activité de la zone, l'activité est en décroissance sensible de 13% en raison des secteurs auto et banque-finance. Dans les Nordiques, pour finir avec le tour d'Europe, la décroissance de l'activité a ralenti, mais s'établit quand même à 12,5% au H1. En Suède, le recul est toujours de 15% et en Finlande de 10%. En Amérique du Nord, une situation d'activité qui s'améliore progressivement, un pays qui est en évolution sur le plan de son organisation interne et de son organisation managériale, et des perspectives que nous considérons favorables, nonobstant les chiffres du premier semestre, pour le second semestre. En Amérique du Nord, une activité qui a décru de 3,9% au global, mais qui s'est améliorée au cours du semestre. Aux États-Unis, l'activité décroît toujours du fait du secteur auto, très important dans l'activité américaine puisque ça représente 30% du chiffre d'affaires. L'activité du life science est en recul également, ainsi que le retail et services. A contrario, nous sommes en croissance assez sensible dans les secteurs de l'aéronautique civile, du spatial, des télécoms et des autres industries. Le Canada, qui représente un quart de la zone, est en croissance de 6%, grâce au secteur aéronautique également et banque finance. Ces deux secteurs représentant au Canada près de 70% de l'activité. Enfin, le Mexique, qui représente 5% de la zone Amérique du Nord, a vu sa croissance progresser de 50% grâce au secteur auto et banque finance. On en a assez peu parlé jusqu'à présent du Mexique, puisque l'activité était relativement marginale, mais elle croît de façon régulière. On y fait des marges assez intéressantes, et le Mexique adresse aussi bien un marché local qu'un marché, qu'une sous-traitance du marché américain. En Asie-Pacifique, une activité qui a renoué avec la croissance également depuis le début de l'année, une activité qui est stable en Chine, qui est un gros tiers de la zone. Une activité qui est en croissance assez forte en Inde, qui représente un tiers de la zone, dans les secteurs défense, énergie, électronique et tertiaire. Au Japon, un quart de la zone, une croissance de 4% grâce au secteur tertiaire. Et la Corée reste malheureusement en décroissance de 4% en raison du secteur auto où elle était très fortement positionnée. Mais la Corée ne représente que 6% de l'Asie-Pacifique. Donc vous voyez que globalement, quand on considère l'activité du deuxième trimestre et donc celle du premier semestre, on y voit des signes quand même assez encourageants, soit d'accélération de la croissance dans des secteurs d'activité qui tirent vraiment le business, soit une stabilisation progressive dans la plupart des zones géographiques. Si on adresse maintenant notre activité par l'angle des différents secteurs sur lesquels Alten est présent. L'automobile, 13,7% du chiffre d'affaires à la fin du premier semestre, à peu près stable par rapport à ce que ça représentait dans le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre. Preuve que l'activité finit par se stabiliser. Elle est toujours en recul de 11% year on year par rapport à l'an passé, mais néanmoins une activité qui s'améliore entre le premier et le deuxième trimestre, puisque le recul de l'activité était de 12,2% au premier trimestre, il n'est plus que de 10,5% au second trimestre. Une activité qui séquentiellement se stabilise, et où le recul de l'activité est beaucoup plus faible chez les OEM, qui représentent 80% du secteur d'activité, puisque le recul n'est que de 9%. En year on year, ce qui veut dire une activité qui est quasiment stabilisée sur le plan séquentiel, alors que ce recul est de 20% chez les équipementiers, où l'activité continue à reculer. Le ferro, 3% du chiffre d'affaires, voit sa croissance s'accélérer à 12,5% sur le Q2, soit 11,9% sur le semestre. L'aérospace, évidemment, voit une qui représente 17,6% du chiffre d'affaires, accélère également. Une croissance qui atteint 23,8% sur le deuxième trimestre, soit 20% sur l'ensemble du semestre. Une croissance très vigoureuse chez les constructeurs, plus 22%. Dans le spatial cette année, comme on l'anticipait l'an passé, plus 27%. Moindre chez les équipementiers, parmi lesquels la situation est plus hétérogène, puisque la croissance n'y est, entre guillemets, que de 8%. La défense, la sécurité et le naval, 9,7% du chiffre d'affaires, continuent à progresser à un rythme soutenu, plus 20% au Q2, soit plus 17,3% sur le semestre. L'énergie, 11,9% du chiffre d'affaires, accru de 3,8% grâce au nucléaire et grid, plus 8%, et au secteur de l'oil and gas qui est repassé positif en 2026. Dans les life science, un rythme de décroissance qui a ralenti à 3% au Q2, d'où un recul ramené à 6% sur le premier semestre, une activité qui se stabilise progressivement, tant dans les équipements médicaux, qui représentent 17% du chiffre d'affaires, que dans le secteur de la pharmacie. Dans la pharmacie, même si l'activité reste en décroissance, puisque le déclin est de 5% year-on-year, mais de 2,8% sur le Q2. Plusieurs comptes sont repartis en croissance, même assez sensible pour certains d'entre eux. Et le recul est malheureusement principalement dû à deux clients importants pour Alten, qui sont Sanofi et, dans une moindre mesure, Novartis, mais où les investissements en Europe, et particulièrement en France, ont été revus à la baisse. Le secteur des équipements industriels, de l'électronique et des semi-conducteurs est en recul de 5,5%. Le secteur des autres industries, en particulier qui représente 60% du chiffre d'affaires, s'est stabilisé year on year au Q2, d'où un recul ramené à 2,8% sur le semestre. Malheureusement, celui de l'électronique et des semi-conducteurs continue à décroître de 9%, même s'il se stabilise progressivement, séquentiellement. Les télécoms, une décroissance de 18,5 au Q1, de 18,5 au Q2, ce qui fait une décroissance de 18,5. L'activité continue de se détériorer chez les opérateurs, parce qu'on est à moins 25 au Q2, mais elle a progressé séquentiellement chez les équipementiers, même si en year on year, les données restent en recul. Le secteur finance, 8,5% du chiffre d'affaires, continue à décroître légèrement, moins 2,7%, mais la dynamique d'activité est très hétérogène chez les clients. Nous avons des clients qui sont en progression, certains même assez sensibles, et d'autres clients bancaires qui, notamment en Italie, enregistrent une décroissance aussi assez sensible. Enfin, le secteur du retail, services et secteur public est à nouveau en croissance pour le second trimestre de façon consécutive à 1,5%. Pour mémoire, la croissance était de 1,8 au Q1 elle n'est que de 1,2 au Q2. Ce sont le secteur des services du secteur public, ces deux secteurs représentant 10,5% du chiffre d'affaires sur les 16,4 que représente le secteur dans son ensemble, qui sont les plus en progression avec une croissance de l'ordre de 4,5%. Donc vous voyez que certains secteurs, l'ASD notamment, tirent très fortement la croissance, mais qu'à l'exception de deux secteurs que sont les télécoms, l'automotive aussi, qui décroît toujours, mais dont la décroissance ralentit fortement, et le sous-secteur des semi-conducteurs, on a globalement un panorama d'activité qui s'éclaircit progressivement et des secteurs qui, à défaut d'être stabilisés pour ceux que je viens de vous citer, décroissent, mais décroissent moins que par le passé. La performance des secteurs ASD du rail est vraiment à noter. Je pense qu'Alten y réalise une progression très sensible et probablement, je pense, plus sensible que chez certains autres concurrents. On verra de quoi le second semestre sera fait, si ces secteurs continueront sur leur lancée ou si les budgets d'investissement qui ont été engagés au premier semestre finiront par se stabiliser ou pas au second semestre. Néanmoins, cette activité qui est en forte croissance générera forcément, au titre du second semestre, une croissance embarquée du fait d'une situation de fin de trimestre, de fin de semestre, pardon, et donc de fin de trimestre qui est assez favorable. Concernant le M&A, donc lors du dernier call, je vous avais indiqué qu'Alten avait finalisé l'acquisition de la société Clanic dans les IT services, qui représentait 68 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 12% à l'international. On a réalisé au second trimestre l'acquisition d'une petite société en Allemagne, dont le chiffre d'affaires est de 22 millions d'euros, 230 consultants, avec un positionnement assez particulier chez les constructeurs automobiles premium allemands, dans le domaine du développement électronique et électrique, du software defined, majoritairement, de la validation, de la gestion de projet, de l'assurance qualité et du test. Beaucoup d'activités qui sont sur ces sujets en particulier adressés par cette société, pas ou très peu délocalisables, ce qui nous a incités à aller au bout de ce processus d'acquisition. Société dont je mentionne que l'EBIT est quand même de 10%, ce qui pour l'Allemagne est une performance. On a par ailleurs cédé une participation qu'on avait dans un groupe composé de trois sociétés dans le secteur des life sciences, positionnées plus particulièrement sur l'activité de CRO et dont le métier consistait à réaliser des études cliniques, mais sur la base d'une solution propriétaire qui était déficitaire. On a donc pris la décision de renoncer à réaliser des investissements complémentaires, cette activité étant relativement marginale dans le groupe, elle a représenté 11,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. On l'a donc cédée au courant du deuxième trimestre et nous allons la déconsolider, à compter, enfin, nous l'avons déconsolidée à compter du 1er mars, 2026. Raison pour laquelle le chiffre d'affaires de référence n'est plus de 4 milliards 99, mais de 4 milliards 91, quelque chose, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc nos perspectives pour 2026, compte tenu de ce deuxième trimestre de très bonne facture, malgré un contexte, tant macroéconomique que géopolitique, qui reste très incertain, malgré une augmentation des taux, puisque la BCE a à nouveau remonté ses taux au courant du deuxième trimestre, malgré l'évolution du conflit en Iran qui évolue en dents de scie, donc malgré un contexte qui reste peu prédictible, on a quand même décidé forcément de revoir à la hausse nos prévisions pour l'année 2026. On n'a évidemment pas tenu compte d'une détérioration brutale de l'activité qui serait liée à un des événements que je vous ai cités, notamment la guerre en Iran, mais il semble que les agents économiques, finalement, et les marchés semblent s'habituer et ne surréagissent plus aux différents éléments qui auraient pu, il y a encore un an ou deux, les perturber grandement. On prévoit donc aujourd'hui de réévaluer notre croissance organique, compte tenu des données du deuxième trimestre. Nous l'avons réévalué dans une fourchette qui est comprise entre 1,4 et 1,8% sur l'ensemble de l'année. Je précise que le haut de la fourchette est une hypothèse très crédible. Dans cette hypothèse, évidemment, l'amélioration de la marge opérationnelle interviendra tant au premier qu'au second semestre par rapport à l'an passé. Je n'avais pas donné de guideline précise, mais j'avais donné une hypothèse de croissance supérieure à 2025 et évoqué 8,7-8,8. Nous pensons aujourd'hui qu'on réalisera sur l'ensemble de l'année 2026 une rentabilité opérationnelle d'environ 9% pour l'ensemble de l'année, ce que nous vous confirmerons au mois de septembre lors de la publication des résultats. On aura peut-être l'occasion, d'ailleurs à cette occasion, de l'affiner peut-être un petit peu plus. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose maintenant de passer à la séance de questions-réponses. Si madame, vous voulez bien ouvrir la conférence pour que les participants puissent poser leurs questions.
Merci. Donc, nous ouvrons la session de questions-réponses et nous avons une première question de Monsieur Laurent Dor qui a levé la main. Donc, je vous autorise à prendre la parole. Monsieur, vous pouvez poser votre question.
Merci beaucoup, bonsoir Bruno. J'avais en fait trois questions. La première, c'est au vu de la reprise, mais aussi des incertitudes, en termes de recrutement sur la suite de l'exercice, quelle va être la politique du groupe? Le deuxième point, c'est sur l'aéro, si tu pouvais un petit peu détailler le type de projet qui repartent, notamment par rapport à Airbus. Et enfin, sur le dernier point, je voulais revenir sur les buybacks, le plan qui est en cours, qui peut aller jusqu'à 7% de mémoire des titres. Où est-ce que vous en êtes en termes de rachat, mais aussi par rapport aux perspectives de M&A, parce que je me rappelle qu'il y avait aussi un montant qui était aussi à mettre en relation avec d'éventuelles acquisitions S2, donc pour voir si les réflexions ont un petit peu avancé par rapport à ça. Merci Bruno.
Alors, concernant les recrutements, notre politique RH aujourd'hui est très opportuniste, c'est-à-dire que si tu m'avais posé la question lors du précédent call, combien de recrutements allez-vous faire sur H2 en net? Je ne pense pas que j'aurais répondu 400, pour être honnête, parce que d'une part, on n'avait pas budgété de cette façon-là, c'est-à-dire on ne budgète pas les recrutements, et ensuite on s'attendait honnêtement pas à recruter en net autant de monde, dans la mesure où on n'avait pas anticipé un rebond de l'activité aussi marqué au deuxième trimestre. Donc les recrutements, c'est laissé à la main des opérationnels et du business, puisque c'est totalement décentralisé pour l'activité projet. Donc si la croissance continue, et si, évidemment, notre taux d'intercontrat est relativement bon aujourd'hui, hein, on est au-dessus des 92% en ce moment de taux d'activité. Évidemment, l'activité Work Package continue à se développer au détriment du TNM, ce qui nous amène nécessairement à devoir maintenir un volant d'ingénieurs disponibles suffisant pour répondre aux appels d'offres. Les cycles de décision, notamment dans les secteurs qui sont en train de, enfin, qui ont bien rebondi au Q2, se sont aussi raccourcis. Donc, on sera probablement, forcément, si on continue à faire de la croissance, en recrutement net positif. Mais honnêtement, je ne peux pas donner d'indication. Ça dépend aussi des typologies de projets. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on fera l'équivalent, peut-être que on fera un peu plus sur le semestre. Honnêtement, je n'ai pas d'indication précise compte tenu du contexte. Concernant les projets aéro, alors en fait, l'aéro recrute, enfin, externalise sur tout type de projet. On a une augmentation assez sensible. Des projets dans le domaine de la conception, parce que Airbus a repris ses investissements en R&D de façon assez marquée. On a toujours pas mal de projets dans le domaine du manuf engineering. On a aussi pas mal de projets autour de la data et de l'IA. Donc en fait, on couvre, et puis aussi, même si ça représente une activité qui pour Alten est moindre, des projets dans l'IT chez Airbus. Voilà. Donc en fait, on couvre l'intégralité, j'allais dire, des référencements du groupe sur lesquels on est susceptible d'être présent. Et contrairement à certaines périodes où c'était plutôt le manuf engineering qui tirait, ou d'autres périodes encore antérieures où c'était plutôt les activités de conception et d'études, là, on peut dire que l'ensemble du portefeuille d'activité est représenté. Enfin, concernant le buyback, on a racheté à date 4,1% du capital d'Alten. L'autorisation du conseil, c'est d'aller jusqu'à 7%. On a un certain nombre de sociétés aujourd'hui dans le pipe en acquisition, on y reviendra, qui ne représentent pas des montants considérables. Hein. Il n'y a pas d'acquisition structurante qui nous obligerait à casser la tirelire et à emprunter de l'argent. Néanmoins, sur le buyback, on avait effectivement, comme tu l'as justement souligné, émis deux limites. La première étant le MNE, mais ce n'est pas celle-ci qui est de limite, qui est de nature à limiter la poursuite du share buyback. La seconde, c'est le cours de bourse. On s'est fixé en interne un cours de bourse au-delà duquel on ne sait pas si c'est toujours opportun de maintenir la même politique de buyback. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, il continue. Pour être précis, on a dépensé à date 87 millions d'euros dans notre programme de buyback. Il va se poursuivre tout au long du mois d'août. Et puis, on fera le point au mois de septembre pour savoir si on va jusqu'au 7% ou si on s'arrête avant. Voilà.
Ok, super, très clair. Merci Bruno.
Merci. Nous allons maintenant passer à
And
une
so
autre
we are
question.
now going
Salut,
to
monsieur
pass
Nicolas
on to
Cadieux, c'est
another
monsieur Nicolas David.
question.
Vous avez la parole. Je vois que votre micro est allumé, vous pouvez parler. Bonjour, vous m'entendez?
On vous
Oui,
entend
très
tout à
bien,
fait.
Nicolas.
Parfait.
Merci. Oui, bonjour Bruno. J'ai trois questions de mon côté. La première, c'est juste une précision, effectivement, sur le TACE. Le 91,8, c'était S1, ce qui veut dire que le Q2 était autour de 92,2, quelque chose comme ça. C'est vraiment la première, juste une
Oui, c'est ça,
clarification.
on est un peu au-dessus de 92.
Et ça, c'est un niveau qui est un peu, pas en
Qui
surchauffe,
est
mais qui est pas le
non.
niveau optimal. Enfin, qui est le niveau optimal, mais peut-être pas tout tenable, si.
Non, c'est pas, on n'est pas en surchauffe. On serait à 93,5,
Ouais.
94, mais c'est le niveau normatif. Notre niveau normatif, c'est 92.
Oui,
On
c'est
a eu
vrai.
du mal à le tenir. On a eu du mal à le tenir ces dernières années. On a quand même réussi à tenir un niveau de 91, 91,3, ce qui était déjà pas mal. Là, du fait de la reprise d'activité. Ben, voilà, on revient sur un niveau normatif qui est le niveau habituel d'Alten, qui est de 92.
Ce qui semble assez remarquable, c'est d'arriver à faire ça avec des croissances quand même assez hétérogènes. J'ai le souvenir que dans un contexte comme ça, c'était plus difficile. Voilà, avec de l'auto qui reste quand même en forte décroissance, les télécoms aussi, et à l'inverse, l'ADS, Aero Defense qui tire très fortement. Est-ce qu'il y a un modèle, quelque chose qui a été fine-tuné dans le modèle pour permettre de faire ça, ou c'est pas quelque chose de si challenging d'avoir
Alors, c'est
92,2
bon, bon, évidemment, c'est une moyenne, hein, et c'est une moyenne pondérée. Donc, il y a des secteurs, enfin, il y a des, en fait, c'est pas tellement des secteurs, mais c'est des pays. Et donc, au sein de certains pays, des secteurs où on a un taux d'intercontrat qui est bien plus élevé que les 8%, enfin, intercontrat au sens large, hein, c'est un peu perte de facturation qui est bien plus élevé que ça. Il y a même des endroits où on se pose la question éventuellement de faire un ajustement des effectifs si le taux d'activité s'améliore pas. Et à contrario, il y a d'autres endroits où effectivement, bah, c'est là où les recrutements s'opèrent en net. Hein, il faut faire face à la demande, à la croissance. Comme évidemment, au sein d'un même pays, on peut avoir des compétences qui peuvent bouger d'un secteur à l'autre. Ça, on sait bien le gérer. Mais quand c'est des pays, c'est pas différent ou des compétences qui sont assez peu miscibles. Qui sont peu fluides, on est obligé de, voilà, de recruter d'un côté et puis de continuer à réguler de l'autre.
C'est clair. Et ma deuxième question, c'était sur l'automobile. Refaire un bilan sur la séquence, parce que si je comprends bien, les OEM au quarter-on-quarter s'améliorent. Par contre, les équipementiers se dégradent, mais dans l'ensemble, le secteur se stabilise. J'ai l'impression que c'était déjà le cas au Q1, voire au Q4. Est-ce qu'il y a un scénario toujours possible dans lequel, en year-on-year, autour du T4, fin T4 de cette année, on pourrait avoir absorbé les décroissances, ou il y a quand même eu au final, malgré tout, encore un peu de décroissance quarter on quarter, et c'est pas tout de suite qu'on pourrait rejoindre enfin pas avant le T4, ou plutôt début d'année prochaine qu'on pourra rejoindre une stabilisation.
Ouais, je pense qu'on sera sur 2026 en year on year toujours en décroissance dans l'auto. Il y a des OEM où, chez lesquels la croissance est repartie. Alors, il y en a un, CBM, où on décroisse dans la Huguet, comme je l'indiquais, mais c'est parce qu'en fait, on a arrêter de répondre à des appels d'offres où les marges sont extrêmement faibles. Donc forcément, on perd un certain nombre de projets, mais qui sont très peu margés. On en gagne d'autres, mais qui ne compensent pas complètement, toujours chez BM, sur les activités de work package. Et après, si on met de côté cet OEM allemand, ensuite, on est en croissance. Enfin, je ne veux pas donner les noms des OEM en particulier, mais selon certaines géographies, il y a des OEM, si je prends les US par exemple, il y a des OEM où on est en croissance, d'autres on est toujours en décroissance. En France, on est en croissance à peu près partout, même si elle est... En fait, on est en croissance, surtout chez Stellantis, chez Renault, c'est un peu plus compliqué. En Suède, ça reste compliqué. En Allemagne, il y a des OEM qui sont repartis en croissance. On a un panorama qui, quand même, globalement, dans l'auto, s'améliore parce qu'il y a encore un an, on était en décroissance plus ou moins marquée partout. Donc là, on voit que Probablement, comme je vous l'expliquais, suite aux précisions qui ont été apportées par l'Union européenne sur les règles, les OIM ont décidé de définir leur propre stratégie, puis ensuite chacun la décline, mais ça repasse forcément par une reprise des investissements. On ne reviendra jamais au niveau de 2019 hein, en Europe, ça c'est sûr. J'espère qu'on stabilisera l'activité début 2027, en year on year. En séquentiel, je pense chez les OIM d'ici la fin de l'année, chez les équipementiers, c'est plus compliqué parce que ils dépendent des OIM et vous savez qu'il y a toujours des discussions sur la part des composants européens qui doivent être inclus dans les véhicules fabriqués, en tout cas produits par des OIM européens. Ce point est toujours pas tranché et l'activité chez les équipementiers est toujours compliquée. Donc, en year on year, on est toujours à moins 20. Ça finira par se stabiliser aussi parce que l'activité a tellement baissé qu'à un moment donné, elle ne pourra plus baisser. Mais c'est vrai qu'on imaginait que chez les équipementiers, la situation allait quand même finir par, à défaut de s'améliorer, enfin, à défaut de se stabiliser, que la décroissance allait ralentir. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Ok, c'est clair. Ouais.
Heureusement, ça représente moins de 20% du chiffre d'affaires de l'auto maintenant.
Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une moindre décroissance au T3 et au T4, mais toujours en décroissance dans l'auto en
Ouais,
général. Et
exactement.
on peut
Ouais,
espérer que
exact.
début 2027, ça soit,
C'est
espérons-le, en
ça.
stabilisation. C'est clair. Et ma dernière question, c'était sur la guidance. Elle applique un S2 plus faible que le T3. Qu'est-ce qu'il faut? Et sachant qu'il y a quand même l'auto qui va moindre décroître a priori que enfin le S2 implique une croissance moins forte côté 2 au S2 et l'auto devrait moins décroître. Est-ce que ça veut dire que c'est notamment dans l'aéro, space and defense qui t'es prudent sur la croissance du S2 ou il y a d'autres secteurs sur lesquels ça peut ralentir?
En fait, on a pris des hypothèses assez prudentes sur le H2 quand même, parce qu'on n'a pas de visibilité sur la croissance additionnelle du H2. Alors évidemment, les projets qui ont démarré en début d'année dans l'ASD, ils vont se continuer au S2, donc ceux-là, ils sont bien dans le portefeuille projet. Ensuite, la croissance, elle dépend en partie donc de la croissance embarquée, mais elle dépend aussi de la croissance qui sera générée au titre du second semestre. Là, on a pris des hypothèses de croissance qui sont assez prudentes. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a un Q4 2025 qui est un Q4 qui était de bonne facture, bon, même s'il était toujours en décroissance, mais il nous avait aussi surpris positivement. On a eu une décroissance, ce qu'on appelle chez nous les arrêts de projet de fin de semestre, assez importante fin 25, qui nous a surpris aussi. Et je vous avais expliqué, je crois, lors du précédent call, que à la fin mars, par exemple, on n'avait toujours pas retrouvé le niveau d'activité de fin décembre. Donc, en fait, il y a un effet de croissance embarqué sur l'ASD, mais il y a aussi un effet de cuvette qui est lié au premier semestre. On est aujourd'hui à nouveau au-dessus de notre niveau d'activité de fin 25, ce qui ne nous était pas arrivé d'ailleurs en 25, hein, où on n'avait pas retrouvé le niveau d'activité de fin 24, ni en 24, où on n'avait jamais retrouvé le niveau d'activité de fin 23. Donc tout ça, c'est autant d'éléments qui sont plutôt positifs et qui montrent une dynamique qui est en train de s'installer. En tout cas, d'amélioration générale du contexte d'activité. Voilà. Mais comme on avait fait un Q4 assez fort avec une décroissance de nos projets début 26, ce qui est d'ailleurs pas particulier à la fin 25, hein, puisque chaque fin de semestre, on perd un certain nombre de projets et on met en général, quand ça va bien, entre 2 à 3 mois à les récupérer. Bon, ça a mis plus longtemps sur 26 que les années traditionnelles. Fin juin, on a eu aussi un certain nombre de projets qui sont arrêtés, donc qui vont être remplacés par d'autres qui vont être lancés en général au mois de septembre. C'est pour ça qu'on sera peut-être fin septembre. Alors, au moment de la réunion analyste, je ne sais pas si ce sera pas trop tôt, mais en tout cas, lors du call d'octobre sur l'activité du troisième trimestre, plus à même de préciser notre guidance, forcément, puisqu'on y verra plus clair sur la récupération des projets. voire les projets additionnels qui ont été lancés à la rentrée. Mais je pense que
Entendu. Ouais.
un 4, c'est un worst case, pour être
Ouais.
clair. C'est vraiment un worst case.
Donc on peut avoir un T3 toujours assez positif, il faut être un peu plus prudent pour le T4.
Ouais.
C'est noté. Merci beaucoup.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Ah, si, nous avons une question. Alors, nous avons une question qui nous vient d'un numéro de téléphone. Donc, je vais vous laisser la parole et vous demander de bien nous donner votre nom et prénom avant de poser votre question. Merci. Je vous donne la parole.
Oui, bonsoir, salut Bruno, c'est Derek Bernstein. Tu m'entends?
Oui, enfin
Ok.
c'est pas extrêmement clair, mais j'entends.
Donc moi j'avais trois questions. La première c'est sur le life science, donc la bascule chez Sanofi de projet aux US. Et en même temps tu dis qu'aux US c'est pas forcément t'es pas forcément sur une bonne dynamique. Est-ce que donc les projets qui sont basculés aux US, tu en vois pas la couleur? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur l'acquisition en Allemagne. Donc tu précisais que c'était des activités très spécifiques. En même temps, j'ai entendu test, qualité, des choses qui sont susceptibles de se faire disrupter par l'IA. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi ces activités-là de cette société en particulier ne serait pas disruptée par l'IA. Et ma troisième question, c'est sur la défense. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que finalement, on voit que ce petit champignon dans certains pays est en train de grossir quand même à vitesse grand V, Allemagne, UK. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cette croissance, la durabilité ou la soutenabilité de cette croissance? Et parce qu'on pourrait se dire, bah finalement, c'est lié à un effet d'accélérateur, ils mettent beaucoup de CapEx, beaucoup de R&D, mais un jour, ça va s'arrêter. Ou est-ce que tu es en train de constituer un fonds de commerce chez des Rheinmetall, chez des BAE Systèmes, chez des grands industriels de la défense que tu n'avais pas avant et qui va perdurer dans le temps comme tu l'as chez Airbus ou chez d'autres, ça ne pas. Merci beaucoup. Et ici, une petite dernière question technique. Donc, le changement de croissance organique sur Q1, c'est lié à la cession, c'est ça? Le 0,1 qui devient 0,3. Ça, c'est l'effet cession fin mars de la société que tu retraites sur l'ensemble du S1.
Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre. Concernant le life science, effectivement, je pense que la politique d'externalisation des clients n'est pas du tout homogène selon les géographies, que le contexte américain est probablement moins propice à l'externalisation, même si elle existe aussi, et que finalement, en perdant un certain nombre de projets en France ou en Europe du fait du transfert des investissements aux US, on récupère pas symétriquement le même volume d'activité sur les activités US. Ça c'est vraiment ça c'est sûr. Bon. Ensuite. Peut-être qu'il y a aussi un sujet commercial qui consiste, enfin, qui fait qu'on n'est peut-être pas assez performant aux US pour récupérer une activité. Alors, c'est évidemment pas du un pour un, ni un projet pour projet, mais on pourrait globalement, si on imagine qu'aux US, il y a plus d'investissements, ça veut dire aussi que proportionnellement, le volume d'outsourcing, même s'il est moindre, augmente. Et que potentiellement, donc, on devrait récupérer une partie de ce marché-là qu'on ne récupère pas. Je ne sais pas dire. C'est probablement un mix des deux. Mais la réalité, c'est que, effectivement, ce que disent les chiffres, c'est ce que tu constates. En Allemagne, alors, mon test qualité, c'est pas, c'est, je l'ai mentionné parce qu'ils en font un peu. C'est pas le cœur de métier de la société. Mais même sur ces activités-là, notamment sur les activités de test. C'est des activités de test qui doivent être faites sur place, sur les véhicules. Donc, il y a moins de chances que ces activités-là soient délocalisées. C'est une due deal qui a duré assez longtemps, d'ailleurs, parce qu'on voulait s'assurer que, bah, évidemment, on a commencé en 25, hein, à discuter avec cette entreprise, courant 25. Évidemment, 25, ce n'était pas l'année la plus propice, hein, parce que 23, 24 ne voulait rien dire pour nous, forcément. Donc, on a attendu de voir le current trading de 25. On a attendu aussi la renégociation de projets pluriannuels qui ont été signés par cette société-là début 26 pour prendre une décision d'investissement définitive. Voilà, de manière à être sûr que le chiffre d'affaires qui était en tout cas anticipé, c'est bien ce chiffre d'affaires-là que la société allait réaliser. Donc on est...
Le gros de cette activité, Bruno, c'est le quoi? C'est de l'électronique embarquée et
Ouais,
du software.
c'est de l'électronique embarquée, du software defined. Dans la défense, alors, oui, bien sûr, il y a des clients qu'on n'avait pas, ou qu'on avait peu, qui grossissent, notamment en Allemagne, au UK, etc. Je pense, mais ça c'est... Enfin, l'histoire montre que quand Alten commence à travailler avec certains clients, en fait, on a toujours développé notre relation d'affaires avec les clients avec lesquels on a bossé. Quand l'activité du client s'est contractée, comme on le voit dans les télécoms, ou qu'on bah, nécessairement on accompagne la contraction de l'activité, mais on n'a jamais travaillé de façon ponctuelle avec des gros clients. Les budgets dans la défense, je pense que les investissements qui sont engagés maintenant le sont pour plusieurs années parce qu'il y a des programmes d'investissement pluriannuels. Je vois mal dans le contexte géopolitique actuel comment finalement toutes les stratégies d'investissement, à la fois enfin, des États notamment, pourraient être reconsidérées. D'ailleurs, en Allemagne, il y a des grands plans de bascule en fait, des gens qui travaillent dans l'auto vers la défense, parce que, en termes de planification, le gouvernement allemand est en train de regarder comment, pour éviter des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires, voire 2 millions, ils allaient pouvoir finalement réutiliser les compétences ailleurs. Donc, je ne suis pas inquiet sur la durabilité et la soutenabilité. Alors, d'un rythme de croissance à 20%, pas forcément dans le temps, mais de la défense comme marché. Qui représentait il n'y a pas si longtemps encore 3-4% chez Alten, qui aujourd'hui en représente plus que presque 10, et qui en représentera nécessairement plus que 10, et pourquoi pas 15% un jour si les activités continuent à se développer. On est présent chez presque tous les grands de la défense, par exemple chez Leonardo, on se développe aussi énormément. En Allemagne, ça grossit, mais ça reste quand même petit, hein. Même au UK, ça grossit, mais ça reste quand même petit. Ça veut dire qu'on a des potentiels de développement et de croissance qui restent importants. Et donc, c'est vraiment un secteur sur lequel je suis, enfin, nous sommes chez Alten très, très confiants. Concernant maintenant la dernière question concernant la cession, alors j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur arithmétique parce que notre croissance Oria du premier trimestre, je ne crois pas qu'on l'ait modifiée.
En fait, dans tes slides, dans tes annexes, tu es à 0,3 au Q1 et 3,03 au Q1 et 3,2 au Q2. Donc ton
Ouais, et on n'avait
0,3
pas
du
publié.
Q1. Non, tu avais
On a...
0,1 au Q1.
Alors,
Donc c'est pas grand-chose.
c'est peut-être une erreur de typo parce que le chiffre d'affaires, il n'a pas bougé, lui. Ça, c'est
Alors du
sûr.
coup, tu nous encourages à prendre
C'est
0,1
bien.
ou 0,3?
Je vérifierai ce point-là. Mais le chiffre d'affaires n'a pas bougé. Non, on a maintenu au Q1 la société dans les comptes puisqu'elle n'était pas cédée. Donc, il n'y a aucune raison que les chiffres du Q1 bougent. Il n'y a que les chiffres, enfin, il n'y a que le chiffre d'affaires de référence qu'il faut reconsidérer sur les trimestres, deuxième trimestre et deuxième semestre. Donc, bon,
Ok.
je vais voir ce point puis je le préciserai.
Okay. Et une toute petite dernière sur les US. Tu parlais de changement, d'organisation, de management, je crois même, tu as évoqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le chantier en cours? Quels sont zones d'amélioration qui ont été identifiées et ce que sera le setup d'Alten aux US une fois tout ce chantier terminé.
Alors, on ne va pas révolutionner notre organisation aux US. Aux US, on est présent au travers de plusieurs marques. Certaines peuvent être concurrentes entre elles chez des clients communs et elles portent des offres complémentaires. Donc, il y a un chantier de transversalisation des offres. Et de regroupement des ressources, je dirais, commerciales qui en cours, en intégrant, pas nécessairement en fusionnant les sociétés qui ont chacune leur offre, qui pour certaines d'ailleurs sont pas aux États-Unis, parce que pour les US travaillent des filiales indiennes hein, qui ont un savoir-faire et qui travaillent directement avec les États-Unis d'Inde, sans passer nécessairement par un front office US. On a aussi une société en Chine qui fonctionne de la même façon, mais plutôt que tout le monde y aille en ordre dispersé, ou en tout cas insuffisamment coordonné, il va y avoir un travail de coordination et de rationalisation de la stratégie commerciale qui va être mise en œuvre. On a recruté un nouveau patron pour les US. Qui a déjà, bon, je ne vais pas développer le plan de stratégie commerciale sur les US, mais qui a identifié des zones de croissance pour le second semestre. Et voilà. Et donc, enfin, même si on est resté quand même, on est resté quand même prudent sur nos perspectives H2 sur le, parce que entre des décisions d'organisation qui sont prises, la mise en œuvre de l'exécution et les résultats, il se passe toujours un peu de temps. Il y a une inertie normale. On a quand même prévu une amélioration de l'activité aux US parce qu'on pense qu'on a vraiment un potentiel qui est sous-utile, qui est sous-exploité.
Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette prise de décision? Parce que finalement, c'est le fait que l'Inde et la Chine deviennent plus gros et ça devenait plus apparent qu'il y avait des inefficiences dans le dispositif
Bon, en
commercial
fait,
ou
bon. Non, en
c'est
fait, il y
juste un
a
nouveau
dans
concept
l'organisation.
qui a
Non, parce qu'en
évolué
fait,
avec la
c'est dans
technologie?
l'organisation. Alors, ça oui, forcément, parce qu'à partir du moment où on a des clients qui nous demandent une organisation beaucoup plus transverse de nos activités, parce que ils veulent avoir des interlocuteurs uniques et surtout des points d'entrée qui sont plus simples, plutôt que d'avoir une multiplicité d'interlocuteurs qui viennent porter des offres qui sont différentes. Donc ça. Je dirais, ça participe de de la transversalisation des approches commerciales de plus en plus, d'où ce qu'on a expliqué lors des dernières réunions. On est en train de structurer des global sales account managers pour adresser des comptes mondiaux qui sont les comptes de l'aéro, de l'auto notamment, mais pas que, du life science, de l'énergie, etc. Ça, c'est effectivement un processus qui est enclenché, qui participe d'ailleurs de l'évolution et de la transfo du groupe. Et puis, on a un certain nombre de personnes avec des postes importants dans l'organisation US qui sont partis. Et ça a donné l'occasion et l'opportunité d'aller recruter. Des managers et notamment un nouveau patron pour toute l'activité nord-américaine, enfin en tout cas américaine, parce que pour l'instant parce qu'il couvre pas le Canada, il va couvrir que les États-Unis, mais pour revoir en fait notre approche, notre stratégie. C'est quelqu'un qui vient du métier, qui connaît bien l'environnement concurrentiel, qui connaît surtout très bien les clients aussi. Qui connaît bien l'écosystème indien de la même façon, et donc, en tout cas, qui, je pense, sera à même de réaliser un travail de développement qui a probablement insuffisamment été réalisé jusqu'à présent.
Il remplace le manager français que vous aviez envoyé aux États-Unis, c'est ça?
Alors,
Dernièrement?
on avait. Alors, aux États-Unis, il y avait des managers français. Il y a toujours d'ailleurs hein, dans l'organisation commerciale des managers français. Mais le patron des US était américain. D'ailleurs, il s'appelait. C'est pas une vanne, il s'appelait Brian. Voilà. Mais voilà. Bon. On l'a remplacé par un patron américain, mais qui lui a un prénom indien, et qui, enfin, voilà, dont on pense que, il a un vrai potentiel.
Top. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Nous n'avons donc plus de questions actuellement.
Alors, il y a une question qui est arrivée par, qui est arrivée sur l'écran. On me demande pourquoi la croissance a accéléré par rapport à nos attentes au T1 et pourquoi on considère que le reste de l'exercice aura une croissance similaire à celle du T2. Non, je pense avoir déjà répondu à la deuxième question, mais pourquoi notre croissance a accéléré par rapport aux attentes du T1? Ben, tout simplement parce que on avait anticipé et identifié évidemment les dynamiques de croissance dans l'ASD, mais on pensait pas que la croissance serait aussi forte dans ces deux secteurs d'activité. On n'aurait jamais imaginé faire plus de 20% de croissance sur ces deux secteurs-là au Q2, même si on s'attendait à être entre 10 et 15. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pas d'autres questions non plus. Donc, s'il n'y a plus de questions de la part de l'assistance, moi, je vais clôturer cette réunion. Je rappelle que la réunion, que la publication des résultats interviendra, je crois, le 24 ou le 25 septembre sur les résultats du H1. Et donc, je souhaite à tout le monde de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Une bonne soirée à tous et à bientôt.